On va commencer cette journée avec trois intervenants. Pierre Rabou, de l'Université de Tours. Audrey Thuayon de Mézy, de l'Université de Franche-Comté. Et Jérémy Maire, qui est journaliste à Paris. Et qui vont donc présenter chacun un petit quart d'heure de communication. Et on va commencer donc avec Pierre.
Alors bonjour, donc juste pour compléter, moi j'ai fait une thèse sur le punk en France, Suisse et Allemagne, et puis Laurent et Audrey m'avaient proposé d'essayer de voir justement s'il y a des liens internationaux, donc ça va être ça mon intervention, et encore merci pour la proposition et l'invitation. Donc au premier abord, justement, quand on parle de la Lorraine, on peut penser qu'on on est dans une scène qui est plutôt à la périphérie de la géographie du punk en France, comme elle est éloignée des grandes villes et des réseaux régionaux disons, plus réputés. Je voulais poser cette hypothèse, qu'elle n'est pas tant à la périphérie du fait de la proximité avec les autres pays et que ça pouvait aussi enrichir cette scène-là. Donc, c'est un peu cette question que je me suis posée. Et pour ça, j'étais voir les différentes archives qu'il y a dessus, parce que vraiment, c'est donc une présentation avec mon approche d'historien. Donc, j'ai aussi utilisé les outils qui vous ont été montrés avant avec Pind, que sont la base de données, mais aussi les archives de fanzines qu'on peut déjà avoir. Et voilà, et c'était aussi l'occasion pour moi, et donc je remercie encore pour l'invitation, parce que ça m'a permis de m'intéresser à une scène que je connaissais à la base pas très bien ici, mais aussi... les scènes des régions proches en Allemagne. Et donc je vais me concentrer, pour préciser un peu le terrain, sur les années 80, donc vraiment, je ne vais pas parler des scènes plus récentes. Et puis je ne vais pas me concentrer uniquement sur la Lorraine, mais vraiment prendre le Grand Est en général. Voilà, je déborde un peu de ça. Donc pour présenter, et donc la question que je me posais, c'est voilà, est-ce que la proximité avec la Suisse et l'Allemagne, ça a pu avoir... Des conséquences en termes de transfert culturel, des influences ou pas. Et donc pour poser cette question-là, d'abord, juste dire très rapidement, présenter ces deux voisins. Donc la scène suisse, elle apparaît dans les grandes villes du pays aussi à la fin des années 70, notamment surtout à Zurich, Bâle et Genève. Et il y a des groupes relativement connus qui vont apparaître, notamment Kleenex qui va signer chez Rod Strid, comme métal urbain un peu au même moment au début des années 80. Et puis en Suisse, en fait, on a deux types de scènes assez différenciées. On a d'un côté la scène de Genève qui très tôt va avoir accès à des lieux, à des structures. Voilà, il y a des salles et c'est notamment une des villes, même si ça paraît un peu étonnant de l'extérieur, encore plus aujourd'hui, où il y avait un mouvement squat extrêmement fort à ce moment-là et qui va être assez rapidement toléré par le gouvernement genevois qui va mettre des contrats de confiance. Donc une scène très tôt structurée. Et de l'autre côté, pour Zurich et Bâle, c'est au contraire des villes qui vont être notées par, vraiment marquées par une absence totale de lieux à disposition pour les scènes musicales, et qui vont amener à des mobilisations extrêmement fortes de la jeunesse, avec des manifestations pendant les années 80 et 82, avec vraiment des milliers de jeunes dans la rue, et les punks vont vraiment participer là-dessus, donc c'est vraiment la spécificité de la scène punk suisse à ce moment-là. Et là, donc, vous avez un peu des exemples de fanzines que je vous ai mis, je ne sais pas si ouais, ils apparaissent à peu près bien, et des manifestations. Pour la scène ouest allemande, donc là aussi, bon, ça va être très résumé. En plus, c'est une scène beaucoup plus grande, avec différentes scènes importantes, ou ici et là aussi, avec chacune leur spécificité, avec Düsseldorf, qui est disons, une scène un peu plus arty, expérimentale, et des scènes plus engagées à Hanovre, Hambourg ou Berlin-Ouest. Et notamment Hanovre, qui va amener, qui est aussi un des grands éléments marquants si du punk international européen, c'est. À Hanovre, il y aura la police qui va mettre des fiches sur les punks et comme réponse, il y aura l'organisation des Chaos Tage, les jours du chaos, qui seront des festivals punk qui auront lieu de 82 à 85, avec voilà aussi des milliers de punks ici, mais aussi des militants d'extrême gauche et qui vont donner lieu aussi à des affrontements avec la police. Et sur les scènes plus proches, il y a des scènes importantes du Grand Est, à Stuttgart, Francfort ou Tübingen ou encore Karlsruhe, Je pense qu'une des plus importantes, celle de Stuttgart, avec des groupes comme KOZ ou Neurotic Arsehole, et aussi à Francfort, une scène militante autour du fanzine Abstellgleis, dont vous avez un exemple ici au milieu. Et alors, quels sont, voilà, donc c'était très bref, juste pour donner une petite idée de ce que sont un peu les traits forts de ces scènes punk voisines. Donc, quelles sont les interactions entre la scène punk du Grand Est et celle issue de ces deux pays. Donc, un premier stade, c'est celle de la simple connaissance. Donc, j'ai été voir dans les différents fanzines des années 80 qui sont produits dans le Grand Est, que ce soit les délires de J.E.B. de Mulhouse, Fever de Emelodeuil de Strasbourg, 80s de Nancy, ou encore Bella Lugosi is Dead de Colmar. Donc, j'ai vraiment essayé d'éplucher toutes les différentes rubriques, que ce soit l'édito, la liste des concerts, les revues d'albums et les interviews. Et ici, vraiment, les mentions aux pays voisins sont vraiment presque impossibles à trouver. Manque de chance pour moi, le pays qui revient presque le plus, c'est la Belgique, mais voilà, je ne m'étais pas intéressé dessus. Mais en plus, c'est plutôt sur l'angle de la bande dessinée qu'il est présent dans ces fanzines. Et un des seuls exemples importants que j'ai trouvé, c'est celui que vous avez ici derrière, qui est donc paru dans les délires de J.E.B. en numéro 14 en 86, qui parle de PTR, qui est donc une association genevoise qui organise des concerts. Et ici, vraiment, le cas suisse est repris comme modèle, mais pas du tout sur cet angle des mobilisations, beaucoup plus sur la question d'une structure. Et là, on dit, voilà, il y a cet exemple de PTR qui permet de faciliter les concerts, qui a fait venir des groupes internationaux. Mais ici, de nouveau, c'est que des groupes de Toulouse et Paris. Donc, on voit qu'il n'y a pas un lien direct avec les régions ici, mais il y a cette mention-là. Et de l'autre côté, dans les fanzines suisses et ouest-allemands aussi, j'ai trouvé très peu de choses qui parlent de groupes issus du Grand Est. De nouveau, du fait qu'à mon avis, dans ces années-là, il y a plutôt un intérêt sur les grandes villes. Voilà, d'abord, notre intérêt aux autres pays va malheureusement d'abord avoir tendance vraiment de se focaliser sur ces grandes villes. Et plus globalement aussi, je pense que c'est à resituer dans le fait que... qui a vraiment, à ce moment-là, dans les 80, une grande tendance au localisme, donc avec aussi développer les spécificités, donc ce qu'on va voir sûrement dans la présentation après. Au-delà de la Lorraine, les fanzines suisses et ouest-allemands s'intéressent surtout à leur propre scène, aussi vice-versa. Ce qui compte avant tout pour les acteurs à ce moment-là, c'est vraiment mettre en avant leur propre scène, parler des concerts qui se passent dans leur ville. Et ce localisme, il cohabite en fait très facilement avec aussi plutôt une forme d'exotisme. C'est-à-dire quand il y aura un intérêt qui va être porté, ce sera plutôt sur les choses un peu loin. Quel autre exemple que je vous ai mis ici, des délires de J.E.B. qui va plus facilement aller parler, de faire des longues pages sur la scène en Suède, qui est même ici dénotée, pour reprendre leur expression, le Grand Nord. Donc on voit vraiment un peu une terminologie un peu exotisante, plutôt que de parler de ce qui se passe à Bâle, qui est à moins de 40 km de où est produit le fanzine. Donc on voit vraiment cette forte tendance au localisme dans les intérêts. Voilà, puis en plus, il y a évidemment la barrière de la langue avec les régions qui sont les plus proches de la scène du Grand Est, c'est-à-dire que soit la Suisse, qui est la Suisse germanophone, et l'Allemagne qui a aussi ici une barrière importante. Après, une deuxième possibilité, un deuxième canal qui est possible, c'est évidemment celui des tournées. Et là, par contre, on a plusieurs tournées qui ont lieu. Donc là, j'ai remis un peu la carte pour voir un peu la proximité. Et dans ce que j'ai pu voir, là, en utilisant la basonnée qu'on a actuellement, donc les Vandales de Mulhouse, ils vont jouer à Freiburg. Ils auraient dû faire une tournée en Allemagne de l'Ouest, mais cette tournée va être annulée. PKRK, ils vont aussi jouer en Suisse, en Allemagne de l'Ouest, tout comme Soggy. Et de son côté, Gégen et Léen vont jouer, mais avant tout en Belgique et au Luxembourg. Donc. Et ici, là, j'ai trouvé peu d'éléments de savoir si des groupes suisses ou ouest-allemands sont venus jouer dans la région. Ça, je pense que ça va pouvoir être complété et précisé peut-être dans la journée, y compris sur des tables rondes, peut-être Justin, on me dit. Et voilà. Mais on voit néanmoins que sur ces groupes-là, sur les quelques groupes qu'on a actuellement sur la base de données, sur la dizaine, il y a près de la moitié qui font des tournées au-delà, soit en Allemagne, soit en Suisse, soit en Belgique. Donc c'est un taux assez important, d'autant plus qu'on ne connaît pas tout le temps ces données, donc c'est possible qu'on ne soit plus que 50%. Donc je pense que ce serait intéressant à comparer avec les autres régions pour se demander s'il y a vraiment une tendance à plus tourner à l'international du fait de cette proximité. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourra peut-être discuter avec les membres des groupes durant les tables rondes dans la journée. Donc là, on voit qu'il y a une véritable volonté de profiter de des scènes qui sont à proximité pour faire des tournées supplémentaires au-delà de la frontière. Et enfin, un dernier rapport qu'il peut avoir avec les autres pays, c'est la question de l'imaginaire. À cet égard, bon, la Suisse elle joue un rôle assez un peu important. Il n'y a pas un imaginaire punk très qui suscite vraiment de l'intérêt, une effervescence ici. Malgré ces mobilisations des années début des années 80, il n'y a pas du tout ça qui revient. On voit que même Genève vient plutôt sur l'idée de la structure. Mais par contre, l'Allemagne elle joue vraiment un rôle extrêmement important dans l'imaginaire punk, pas seulement ici, mais vraiment l'imaginaire en général. On pense bien sûr à ses références au nazisme, mais pas seulement ça. On retrouve vraiment des références à l'Allemagne très souvent en France, non seulement dans cette provoque via l'utilisation de la croix gammée, mais aussi dans les noms. Donc si on regarde, il y a vraiment dans les années 80 beaucoup de groupes français qui prennent des noms germanophones comme Osweiss de Fontenay, Reichorgasm d'Orléans, Totenkopf d'Essen, Warum Joe, Heimatlos, Lordeva Brand de Paris, Wunderbar de Nanterre. Donc on voit qu'il y a vraiment ici une place de l'Allemagne dans l'imaginaire punk est importante. Pour certains punks qui s'inscrivent dans la scène Oi, à ce moment-là, ça cohabite avec une fascination pour le nazisme, mais c'est loin d'être le cas de tous. Ça rentre aussi, à ce moment-là, dans une forme aussi d'europhilie qu'on retrouve aussi en Angleterre, avec cette idée de mettre en avant des noms allemands, et qui est aussi une forme de mode dans la façon de trouver des noms de groupes. On sait qu'il y a aussi tout à coup un style qui revient, et ici on retrouve également en France. Et on retrouve aussi même des fois des chansons qui sont en allemand. Est-ce que pour autant on retrouve dans le Grand Est ces références à l'Allemagne ? On pourrait se demander, du fait de la proximité, est-ce que ça viendrait plus ou plutôt peut-être du fait de l'histoire également, de l'indexation durant la Seconde Guerre mondiale ? Est-ce qu'au contraire, il y aurait moins cette volonté de s'associer à des mots allemands ? Et justement, pour l'époque, pour les années 80, j'ai trouvé aucun nom de groupe en allemand pour la région du Grand Est. Et on peut voir au contraire que cette référence à l'Allemagne, elle suscite d'abord la curiosité des gens de la scène. Par exemple, il y a un interview de Osweiss, toujours dans les délires de JEB, dans le numéro 16. Et vraiment, la première question que va poser le journaliste à Osweiss, c'est « Référence à l'Allemagne, pourquoi ?» Donc vraiment, la toute première question, c'est l'article que vous avez ici en bas à droite. Et le groupe de Fontenay va répondre que c'est pour faire réagir, tout ça. Donc de nouveau, un peu cette idée de la provocation, mais à mon avis, c'est symptomatique de commencer par cette question, de montrer qu'il y a vraiment une attention à ces questions-là. Et plutôt que des références à l'Allemagne, ce qu'on retrouve, à mon avis, dans les groupes de ce moment-là, c'est bien plus une scène qui est extrêmement attentive sur les questions du racisme et de l'extrême droite, qui est vraiment extrêmement forte. Vraiment, on a peut-être dans cette scène-là, à mon avis, deux dynamiques principales. Il y a d'un côté des groupes de punk hardcore qui vont chanter en anglais, mais de l'autre côté, ces groupes de hardcore, c'est Original Disease de Besançon ou Infected Youth de Agno. Mais à côté, il y a une autre vraiment très forte dominante qui est anti-militaire et anti-raciste, avec Les Vandales de Mulhouse, Offensive de Virupt, PKRK, puis Gégen et Léane de Metz, Longvie, et encore Désert Culturel de Besançon. Et encore Final Blast de Plantarlier. Vraiment, tous ces groupes du Grand Est, ils écrivent des textes qui dénoncent le racisme et qui critiquent la guerre. Donc, je vais peut-être vous mettre ici un petit exemple avec Gégen et Léane, avec le Altola, si ça part. D'accord. Donc voilà, pour arriver vers la conclusion, donc sur la proximité avec les frontières et la place du militaire dans la région, plutôt que de faire une d'amener une influence de l'Allemagne ou de la Suisse, c'est plutôt, ce que, à mon avis, il y aura plutôt une conséquence de développer vraiment des positions, une perspective internationaliste, soit avec les yeux dirigés vers le monde anglo-saxon, soit vraiment avec cette volonté de mettre en avant cet antiracisme et l'antimilitaire. Donc là, ici, vraiment, c'est seulement des premières pistes, des premiers indices dans cette recherche que j'ai pu faire qui demandent à être complétés, mais qui montrent que, à ce stade, la proximité géographique, elle n'a pas tellement de conséquences en termes d'influence directe sur la façon de composer, la façon de se structurer des scènes. Notamment, on peut penser que ces chaos Staged, ces festivals du chaos en Allemagne, qui sont vraiment un élément important au niveau européen, c'est vraiment symptomatique du fait que le seul endroit où on va tenter de reproduire ça en France, c'est à Orléans en 84 avec le Chaos Festival qui va être organisé par Chaos Productions, qui voulait vraiment, qui avait vraiment cette idée de reprendre le concept en Allemagne, qui était développé en Allemagne pour l'amener en France. On va pas du tout trouver ça ici, mais donc on voit que cette proximité n'a pas tellement une conséquence là-dessus. Je pense que le principal apport, c'est plutôt vraiment cette possibilité de permettre de faire des concerts, une ouverture des tournées sur l'international. Voilà, merci.
Merci.